commencer une toute petite présentation rapide pour dire qui tu es et ce que tu fais dans la Terre Tremble.
Ouais, c'est jamais les questions les plus évidentes. Moi, je m'appelle Paul, l'oiseau. Et je joue dans un groupe qui s'appelle La Terre Tremble en tant que batteur, chanteur et même un peu plus.
T'as vu, à la guitare des fois.
Voilà, je fais de la guitare. En live, on me voit pas trop la guitare, mais il se trouve que sur disque, je compose pas mal. Donc j'apporte des parties plus mélodiques. Voilà. Et des choses plus électroniques aussi. Et donc je joue avec mes deux compères qui sont Julien Chevalier, Benoît Lobby. Tous deux guitaristes, chanteurs, et donc voilà, ouais. Tu veux que je parle plus de La Terre Tremble ou ça
non,
va
non, c'est bien, hein on a déjà fait une interview, donc déjà,
ouais, bah ouais.
Voilà, on sait de quoi on parle. Alors justement, le dernier disque est arrivé au bout d'un long moment, a priori la gestation a été pas évidente,
c'est
entre
ça.
Autres parce que vous étiez un peu pris dans des automatismes,
ouais.
Dans des rôles que vous n'arriviez pas à dépasser.
Ouais, c'est ça. Ben ouais, c'est-à-dire que... Bon, c'est un truc qu'on s'est rendu compte vraiment à la fin des tournées de travail, à force de jouer vraiment pour le format scène, on s'est rendu compte, vraiment en reprenant la composition, on s'est rendu compte qu'on était vraiment coincé. Il y avait quelque chose qui n'était pas, comment dire, qui n'était pas frais. Je parle vraiment de rôle parce que c'est vraiment ça. On était figés chacun dans des rôles. C'est-à-dire moi en tant que batteur-chanteur qui en voit beaucoup, les deux guitaristes, rester là-dessus. Et je sais pas comment dire, mais c'est très dur de sortir de ces automatismes pour pouvoir partir sur du neuf, quelque chose de... Nous, on a vachement besoin de... comment dire, d'un cadre pour travailler, quelque chose, j'ai envie de dire intimiste, mais je sais même pas si c'est ça, mais on a besoin de se foutre des coups de pied au cul pour être dans l'inconfort, quoi, et toutes ces tournées nous ont permis de...
Ça devenait plus confortable.
Ça devenait trop confortable, voilà, il y avait trop de choses acquises, donc on a mis le temps, vraiment, pour déjà souffler et pas se donner trop la contrainte de il faut vite enregistrer un disque, parce que si ça vient pas, il faut pas se forcer, et c'est pas grave. Et puis, bah, petit à petit, enfin, ouais, avec le temps qu'il puisse régler ces choses, donc on a mis le temps.
Alors justement, sur un morceau, par exemple, sur Elements, vous avez dit que vous étiez imposé un cadre, que vous étiez parti de l'unité rythmique.
Ouais,
c'est manière
ça.
Justement de bouger les automatismes.
Ouais, bah c'est d'ailleurs la première chanson qui est venue, parce que ouais, ça faisait vraiment longtemps qu'on bloquait sur des choses qui avançaient pas. Et bah là, voilà, c'est parti d'une rythmique, tu vois. Voilà, c'est un truc assez monolithique, une note, on reste là-dessus et on essaie de construire avec ce peu de matériaux, rester centré sur cette rythmique assez martiale. Et voilà, ça te donne une espèce de cadre. Bah, je crois que je vous en avais déjà parlé, que c'était vraiment à l'intérieur des cadres qu'on pouvait se sentir vraiment libre. Quoi, et donc voilà, ouais, c'est sur cette base solide, c'est à partir de ça qu'on s'est mis à broder, à via cette chanson.
Ça a été le déclencheur, en fait ?
Il me semble, ouais. Y a eu, c'est vraiment cette chanson qui a décoincé le truc, quoi. Et ça a duré depuis un petit moment, quoi. Ça faisait vraiment un an qu'on n'avait rien, vraiment. Mais voilà, c'est dur, en même temps, faut savoir accepter ça, quoi. Et bah ouais, à partir de ce moment-là, il y a, je sais pas, il y a des espèces de, je parle souvent de couleurs, quoi. On s'est rendu compte que dans tout ce qu'on, enfin, qu'il y avait un son qui commençait à se pointer. C'est aussi lié au lieu dans lequel on a bossé, qui est donc le studio Chaudeland. Un endroit qui est perdu dans le Cotentin, c'est vraiment une petite baraque retapée en studio. Donc on a vraiment pu investir ce lieu qui est tenu par des potes aussi. Donc voilà, quelque part, les murs de ce lieu, ils ont une couleur, quoi. Ils ont apporté quelque chose vraiment au son du disque, quoi. Donc, je saurais pas trop définir cette couleur, mais elle est... nous, ça nous a paru évident, quoi, qu'au bout d'un moment il y avait quelque chose qui se dégageait et les choses sont allées un peu plus vite à ce moment-là. Voilà.
Ouais, alors justement, j'écoute un peu souvent la terre tremble. Mmh. Et j'ai l'impression que sur ce nouvel album, même si on reste dans des choses qui bougent les structures, il y a toujours des ruptures, mais il y a quand même un côté plus fluide. Alors, d'où ça vient et est-ce que vous êtes d'accord déjà avec cette idée-là ?
On est d'accord, ouais. Enfin, j'espère, je prends ça comme un compliment. On s'est pas dit, pourtant on s'est vraiment pas dit avant l'enregistrement, allez, faisons des choses plus fluides. C'est venu assez naturellement, mais c'est aussi parce que faire des chansons, comme tu dis, pleines de ruptures, de cassures, c'était vraiment pas le but de La Terre Tremble à la base. Moi, avec le recul, je me rends compte que c'était, comment dire, on faisait ça par défaut, presque. C'était nos erreurs, les erreurs du moment et comment dire, c'était pas un but en soi, qu'on n'a jamais eu envie de faire une musique déstructurée. Nous, on s'imaginait vraiment faire des chansons, mais voilà, ouais, moi je considère que quelque part, ce qu'on avait dans l'idée de faire des chansons et quelque part on les a ratées. Et c'est ce qui fait que ça donne quelque chose aussi, quoi. Moi je... Je suis pour rater les choses aussi, ça apporte quelque chose, quoi. Et donc voilà, ouais, Salvage Blues, effectivement, il y a quelque chose qui est peut-être un peu plus droit, plus centré, malgré le fait que on se refait pas. Et voilà, moi, j'arrive pas à considérer une chanson comme un truc tout droit qui
même
va de
A
à
Z. Hein, voilà.
Oui, voilà,
un
ouais.
Petit
ça... Bah oui, mais ça, c'est ça vient de. Ça vient de notre approche de la musique qui quand même, j'arrive pas à imaginer les chansons comme un truc très avec une ligne chronologique. C'est toujours les choses font des je sais pas comment dire, des déviations, des transversales, des allers-retours. Voilà, c'est on joue beaucoup avec des notions de temps, je trouve, dans les chansons. C'est on peut étirer le temps, le compresser. Donc voilà, ouais, c'est assez ludique, quoi, comme manière de faire, quoi.
Alors il y a une autre chose qui, me semble-t-il, a pris une autre place, c'est le chant et, et les chœurs, entre autres.
Ouais.
D'où s'est venue cette envie ? On a parlé avec Eric, on a fait une petite interview il y a pas très longtemps, et il disait que c'était toi qui étais arrivé avec les chœurs, par exemple, sur Patriotic Sunday. Alors l'idée de faire des chants, c'est venu avant ? C'est venu de ce projet-là ?
Non, je crois que... le chant, l'envie de chanter, c'est venu avec, pour le coup, c'est venu avec le live où, bah voilà, quoi, les chansons de travail, on se les a réappropriées pour la scène et du coup, bah je me suis mis à sortir plus de moi-même et à crier plus, à sortir beaucoup plus de choses et donc voilà, ouais, ça m'a plu. Je me suis rendu compte que c'était là que je me sentais libre, c'était quand je me mettais à crier comme un con dans mon micro et les chansons, on les a composées avec le chant, ça c'est clair. Et ça c'est vrai que ça a changé toute notre approche de la composition. C'est pour ça aussi, je pense, les chansons sont un peu plus droites qu'avant. C'est parce que le chant était l'élément un peu central des chansons, quoi.
C'est-à-dire que quand tu dis que vous composez avec le chant, vous pensez le chant d'abord, vous... C'est peut-être pas facile à expliquer.
C'est pas facile à expliquer, puis ça dépend des chansons, mais il est clair que ouais, quand on s'est mis à composer, j'ai pas trop attendu avant de chanter, quoi. C'était direct, je me mettais à chanter en même temps que je jouais de la batterie. C'était une grande première parce qu'avant, je plaquais le chant par-dessus ce que je jouais, ce qui n'était pas toujours évident. C'était dur pour placer la voix. Et donc maintenant, voilà, j'ai l'impression que j'arrive un peu plus à mêler mon jeu de batterie avec ma manière de chanter. Les deux sont composés ensemble, comme si c'était un seul et même instrument. Enfin, donc voilà, le chant a quelque chose d'un peu plus rythmique, de plus clair.
Quand vous enregistrez, vous faites prise par prise ou vous faites plutôt live, justement pour la voix ou pour le reste ?
Alors, quand on enregistre, nous, on aime bien s'amuser, donc il y a vraiment de tout, il y a toutes les approches. Contrairement à pas mal de collègues dans le milieu de la noise ou de l'indé, je suis pas non plus un acharné de la prise live. C'est très bien parce que c'est là que tu auras le plus d'énergie ce truc comme une espèce de photo d'un instantané. J'aime bien, mais pour nous, le studio sert à autre chose que ça. Si c'était que ça, ça servirait, enfin pour moi, à pas grand chose, pas rien quoi. Voilà quoi, nous, j'ai déjà dû le dire, mais pour nous, le studio, ça aurait été un lieu de, ouais, d'expérimentation. Donc voilà, on crache pas du tout sur le piste par piste. En général, les chansons, il y a une base qui a été enregistrée live, c'est-à-dire batterie et deux guitares. Et par-dessus cette base, on brode avec chant, les instruments annexes, des guitares en plus, plein de trucs. Vraiment, on s'est vraiment pas limité sur cet album. Il y a des chansons où il y a plus de 80 pistes. C'est n'importe quoi, mais... voilà, c'était pas pour nous du gadget. On avait besoin sur certains morceaux qu'il y ait 80 pistes, quoi. Voilà, pour faire ces espèces de cathédrales.
Cathédrale, ça va bien avec la musique.
Carrément. Ouais, voilà, des cathédrales qui des fois sont un peu branlantes, mais quand même il y a cette idée de quelque chose d'assez monolithique, quoi, qui déborde, mais une base très solide, comme vraiment du rock, quoi.
Alors tu parlais tout à l'heure de studio, justement vous êtes allé au studio Sugarland, ouais. Pour travail c'était l'inverse, c'était un temps restreint.
C'est ça.
Pourquoi est-ce que c'est ce choix-là de...
C'était pour...
Une frustration par rapport au travail ou...
Non, travail, je suis content qu'on l'ait enregistré dans ces conditions, c'était... Ouais voilà, on l'a vraiment enregistré en une semaine avec Miguel qu'on connaissait pas du tout au moment de l'enregistrement, vraiment on rencontrait ce gars-là. Donc il y a un truc où les choses ont dû se faire vite. Alors après, c'est évident que maintenant, quand je réécoute travail, je me dis qu'on aurait pu procéder autrement. Enfin, ouais, je suis toujours très sévère avec les albums qu'on a fait avant. Et donc voilà, du coup, Salvage Blues, l'idée, c'était de prendre le contre-pied de tout ça et de faire l'inverse, c'est-à-dire occuper un lieu pendant près d'un an... Et vraiment travailler, autant sur travail, on a vachement délégué à Miguel pour ce qui est du mixage, on était derrière, on supervisait de loin. Autant sur cet album, on avait envie de, si on avait pu l'enregistrer nous-mêmes, on l'aurait fait, sauf qu'on n'a pas les capacités techniques de le faire. Mais bon, on bossait avec donc Manu Lafeac, qui est notre ingé son en live, donc c'est un gars qu'on connaît bien et qui pige bien ce qu'on veut assez vite. Donc on a vraiment bossé à quatre sur la conception très technique de l'album et en particulier sur le mixage qui était la partie la plus chaotique de vraiment,
ouais,
de la conception.
La gestation c'était dur, l'enregistrement, ouais. Facile et...
L'enregistrement cool, vraiment cool. Le mixage un calvaire, vraiment ça a failli partir en naufrage quoi. Il y a même eu des moments où on s'est dit arrêtons l'album quoi, on passe à autre chose, on arrête, c'est plus possible. On est venu à des crises de nerfs pas possibles, ouais, je te dis, failli tout arrêter parce que c'était parce qu'on avait une sorte d'idée une idée précise de ce qu'on voulait pour le mix, mais c'est pas vrai, c'est on avait des concepts quoi, donc c'est pas du tout concret, c'est très abstrait quoi. Dans le sens où on voulait vraiment rompre avec les codes habituels du mix qui sont toujours un peu trop, à mon goût, c'est toujours trop, on cherche trop à équilibrer dans le mix, c'est toujours trop, voilà, que tout est sa place et tout est trop bien rangé, c'est comme une coupe de cheveux trop bien faite. Nous on voulait vraiment que ça déborde, que ça bave. Et bah mine de rien, c'est dur à faire ça. C'est dur à... Finalement, faut le provoquer, cette chose. Et donc voilà, on a peut-être fait des erreurs, j'en sais rien, au niveau de l'enregistrement. On n'aurait peut-être pas dû enregistrer les choses de cette manière, mais parce qu'il se trouve qu'au mix, on s'est retrouvés comme des cons, bloqués. Voilà, quoi, on s'est un peu posé, on a laissé le mix reposer pendant quelques mois, et on est revenu. Et je sais pas pourquoi, au bout d'un moment, c'est allé vachement plus vite. Je sais pas, on avait fait une... petite cuisine dans notre coin, on avait réfléchi à ce qu'on voulait, on est arrivé avec des idées assez claires, un peu plus claires auprès de Manu, et je sais pas, ça s'est débloqué. Et aujourd'hui, je suis très très content du mixage qu'on a fait.
Alors justement, pour le mixage, j'ai eu une petite intervention quasi magique, a priori, d'un vieil écho à bande. Tu peux nous expliquer ça?
Ah oui, t'as lu les autres en interview, toi.
Bah, un peu,
ouais. Ouais, bah ouais. Alors bah, ça, c'est... C'était toujours ce truc de... moi, je crois... Enfin, j'ai J'ai pas envie de me borner à la pureté du son, ça m'intéresse pas trop. Et c'est dur de... Tu dois te battre avec les ingénieurs du son en général sur cette question, parce qu'en général, quand ils ont fait une prise, ils aiment garder la pureté de cette prise parce qu'elle est bien faite et tout. Regarde, on entend les graves, les aigus, le spectre et tout. Regarde, c'est parfait, faut le laisser tel quel. Et nous, on est plutôt du genre, à nous trois, à se dire non, pourrissons cette chose, quoi. Cassons-la, brisons-la. Et,
encore une fois.
Voilà. Ben oui, voilà. Et je suis pas contre cette idée de comment dire, de passer les sons par des filtres, par des choses très artificielles qui ajoutent quelque chose. Enfin, moi, c'est parce que ma culture musicale, elle est vachement liée aux 60s. Et tous ces producteurs qui ont fait des choses incroyables. Ou alors, je sais pas, je pensais à Joe Meek ou à Phil Spector qui n'hésitaient pas à trafiquer, ouais, voilà, et à briser les choses. Donc voilà, on s'est permis, bah, il y a eu cet outil, mais il y en a eu d'autres, quoi, qui était ce petit écho à bande et qui nous a vraiment sauvés parce qu'on a passé la plupart des pistes dans cette machine et. Ça nous a permis d'avoir un espèce d'écho, un son, je sais pas, un peu dub parfois, dub froid. Je sais pas, il y avait une sorte de texture quoi, qu'on retrouvait. Et voilà, ouais, c'est ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait de la texture quoi, un grain chaud et un peu rugueux. Et voilà, ce genre de petit outil nous a permis d'arriver à ça quoi.
C'est réussi en tout cas. Alors, juste pour revenir un petit peu sur le studio, qu'est-ce que vous appréciez, vous, quand vous êtes en studio? Parce que, voilà, souvent, on se pose la question de comment on passe du live au studio.
Ouais.
Vous, a priori, vous avez l'air d'apprécier. Et qu'est-ce que vous aimez bien?
Alors, j'aime et je déteste à la fois. C'est-à-dire que c'est un stress énorme. Vraiment, je crois que le pire, c'est... voilà, c'est-à-dire de... Bah, les prises live, justement, pour nous, c'est un calvaire parce que... On est obligé de les refaire une centaine de fois. On est vraiment pas des super bons techniciens de la musique, ce qui fait que on n'arrive pas à faire les choses bien d'un coup, quoi. Donc pour nous, c'est quand même une source de stress. Mais ce qu'on apprécie, c'est justement le moment où on arrive à la partie production, c'est-à-dire qu'on a une base qui vaut ce qu'elle vaut et comment on fait pour sublimer le morceau maintenant, quoi. Et ça se rapproche plus de la production, c'est-à-dire la manière d'arranger un morceau, moi c'est ce que je préfère, c'est justement ça dont je te parlais, d'avoir un écho à bande et triper, et taper sur une caisse claire et ça ressemble plus à une caisse claire. Voilà, souffler dans un harmonica et foutre 10 milliards d'effets par-dessus, ça te donne un effet de trompette bizarroïde, ce truc un peu psychédélique, tout ça, voilà, moi c'est ça qui me plaît, c'est quand ça devient un terrain de jeu quoi. Voilà, et là après c'est toujours dur parce que tu pourrais y passer des semaines et des semaines et des mois et t'as plus envie de t'arrêter et à la fin ton morceau il ressemble plus à rien, il ressemble plus du tout à l'idée initiale du morceau. Faut savoir s'arrêter, c'est le plus dur aussi de s'arrêter.
Je crois que c'est pour ça qu'il y a des gens qui prennent des producteurs des moments.
Qui prennent quoi?
Des producteurs justement.
Ouais, voilà, c'est ce qu'on s'est dit, à des moments ça serait bien qu'il y ait un mec qui nous supervise parce que on n'est pas capable de savoir quand est-ce que le morceau est fini quoi. C'était très dur. Voilà, Miguel pour travail avait plus ce pouvoir là de nous dire je crois qu'il nous a un peu plus guidé sur la forme des morceaux, quand est-ce qu'il sentait que c'était fini. Que Manu était vraiment, je sais pas comment dire, il avait peut-être pas le recul que pouvait avoir Miguel. C'est comme si Manu faisait partie de la Terre Tremble sur cet album. Du coup, il avait pas le recul non plus. Mais c'est pour ça que ça a été chaotique, mais qu'on s'en est bien sorti, je trouve.
Alors question musicien, il y a un autre intervenant qui est venu, c'est Pierre Lamblat qui vient de faire du cornet et du tuba.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passée la rencontre et pourquoi vous avez eu envie de ces instruments-là?
Ouais. Eh ben en fait, tout s'est fait via Thomas Poli, je sais pas si vous voyez du coup. Voilà, donc guitariste chez Dominica entre autres, qui à un moment de l'album, pour l'enregistrement des voix, il est venu nous aider. Parce qu'on n'a pas enregistré les voix à Chaudeland. Enfin, on a d'abord fait un enregistrement de voix à Chaudeland, mais qui était catastrophique. J'étais pas du tout dans le mood pour chanter. Il y avait quelque chose qui s'est pas passé justement. Et donc on a tout enregistré à Rennes chez moi. Et donc Thomas est venu nous aider à ce moment-là. Il est venu avec des micros. Il a vraiment contribué à l'enregistrement des voix. Et nous, ça faisait un moment qu'on avait envie de cuivre sur cet album, qu'on avait envie de ses sonorités. Il y a pas mal de chansons où on entendait des trompettes de la mort. C'est vraiment pour ajouter un côté, je sais pas, apocalyptique à la musique. Il y avait besoin de son basse. Et donc, on cherchait quelqu'un qui pourrait jouer, pas du cornet, mais du tuba à la base. Et donc, c'est Thomas Poli qui nous a parlé de ce type qui habite à Vendôme, donc. Et direct, on allait le voir. Il était trop chaud pour enregistrer. On allait chez lui enregistrer ça avec Thomas Poli. Et voilà, c'est un type assez extraordinaire, une espèce de. Je sais pas comment dire, il me fait penser à un mec des Mother's Invention de Zappa. C'est une dégaine assez hallucinée. C'est un type vraiment extraordinaire. Et on lui envoyait les morceaux à l'avance. Et il avait carrément. Moi, je lui avais dit, voilà, le morceau, il est en fa ou je sais rien. Et lui, en fait, il s'était ramené. Il avait carrément composé des trucs. Vraiment des harmonies, quoi, là-dessus. Donc, voilà, on a tout enregistré en piste par piste chez lui. En sachant qu'il a une cave, enfin sa maison est accolée à une grotte troglodyte. Donc c'est assez hallucinant. Donc il a une espèce de studio dans ces grottes troglodytes et on a tout enregistré ça là-dedans. Il y avait une super réverb, c'était vraiment génial, quoi. Donc super belle rencontre et vraiment j'espère refaire des choses avec ce gars. Et notamment en live, on a une espèce de projet qui nous trotte dans la tête un jour, je ne sais pas quand. Faire une version live de Salvage Blues avec les arrangements de cuivre, ça serait mortel, mais il faudrait au moins, un quartet de cuivre pour que ça tienne la route, quoi.
C'est une super idée.
Ça serait bien, mais on lui a pas encore demandé, mais j'aimerais bien qu'il participe à ça. Et puis vraiment, ouais, j'aimerais bien même les prochains albums refaire appel à lui.
Alors une question qui a rien à voir, mais une question que je me pose souvent, j'imagine que l'ordre des titres, ça a vraiment de l'importance, ça vient faire sens dans un album. Ouais. A priori, vous composez pas et puis vous mettez dans l'ordre de l'époque de composition. Qu'est-ce que vous vouliez montrer avec cet ordre-là ?
Alors, c'est compliqué. Il y a une histoire de rythme. Nous, on considère vachement. Enfin. Considère presque un disque comme un film, enfin il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi, avec des ou comme un putain ça paraît un peu pompeux, mais je veux dire comme un opéra, mais il y a toujours cette idée d'avoir une ouverture, un développement, une conclusion. Donc il y a des choses qui coulaient de source. En fait, on n'a pas tant galéré que ça pour l'ordre des chansons parce qu'on était tous d'accord. C'était presque, il y avait une évidence dans l'ordre des morceaux, notamment sur le morceau d'ouverture qui, quand on l'a enregistré, The Frame in Which You Fit, on l'a enregistré, c'était on a tout de suite vu que c'était un morceau d'ouverture, quoi. Il y a quelque chose de ce ordre là, quoi. Et pareil pour le morceau de la fin, le dernier morceau qui s'appelle I Am The Billions. Voilà, c'était nécessaire pour nous de terminer par quelque chose de très calme, par une espèce de. Voilà, je dis souvent que c'est comme si on était des cow-boys sur nos chevaux et qu'on disait au revoir et qu'on partait au loin avec un coucher de soleil dans le fond. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Mais contrairement à Patriotic Sunday, où là on est dans un disque de pop, c'était beaucoup plus dur, par exemple, pour le choix des morceaux. Nous, on n'était pas du tout d'accord avec Eric, c'était étrange. C'est clair, tu te rends compte que tu peux changer la couleur d'un disque en inversant les chansons, en les changeant de place et tout. Mais bon, voilà, quoi.
Alors, en parlant de couleur, justement, si on pense aux pochettes d'albums de travail ou de trompe-l'œil, c'était assez minimaliste, on va dire, géométrique. Là, c'est complètement explosif.
Comme d'hab, on a voulu prendre le contre-pied du précédent, quoi.
Alors, qu'est-ce qui a fait cet artwork et qu'est-ce que vous vouliez en faire, en fait ?
Ouais. À la base, je devais me coller à la conception de la pochette. J'ai essayé plein de choses. On avait juste dans l'idée de sortir du truc complètement graphique, mathématique, optique, comme on avait fait sur Travail, quoi. Donc, on voulait quelque chose de très charnel, quoi, voire violent, mais quelque chose de figuratif. Voilà, et je sais pas pourquoi, mais depuis le début, on imaginait une peinture très classique presque. Donc j'ai essayé de peindre des choses et ça ne marchait pas, parce que je suis pas non plus un super peintre. Et voilà, j'ai mis la barre trop haut. Donc voilà, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je laisse tomber et on va confier ça à un copain qui s'appelle donc Simon Polignier, qui est un gars de Rennes, qui, il me semble, fait les beaux-arts et il a... bosse dans plein de trucs, dans des collectifs artistiques, comme un truc qui s'appelle Superstrat. Il joue dans le groupe Condor, qui a joué à notre release party. Il joue dans plein de trucs d'impro, électronique, trucs débiles. On savait qu'il peignait des choses. Donc à la base, on est allé le voir pour lui demander une peinture. Et on lui a fait un cahier des charges assez précis. Il se trouve qu'il ne l'a pas vraiment respecté. Mais quand même, il y avait l'idée de base qu'on voulait, à savoir quelque chose d'assez violent, l'idée d'une quelque chose de figuratif qui partirait vers vers quelque chose de très très abstrait. Voilà, justement, il y a cette espèce de comment dire un truc un peu vaporeux qui se dégage de cette pochette. Je suis hyper content de cette pochette parce que je trouve qu'elle ressemble vraiment à la musique, quoi.
Tu parlais de couleurs, justement. Est-ce que tu penses qu'elle correspond aux couleurs de la loi ?
Elle correspond absolument pour moi, dans le sens où elle a quelque chose de très, très, à la fois très sombre et en même temps avec ses couleurs presque fluo. Tu vois, elle est très contrastée. J'aime bien cette pochette parce qu'elle a, en plus, elle a plein de, il y a plein de manières de la regarder. Il y a plein de, comment dire, de points de vue qu'on peut avoir sur cette pochette. On peut l'observer des heures, observer qu'il y a des trucs à l'arrière, des trucs sur les côtés. Tout se répond, il y a plein de choses qui se répondent dans la pochette, mais en même temps, c'est un peu bancal aussi, c'est assez asymétrique. Donc voilà, c'était exactement ce dont on
avait
besoin.
C'est un peu votre musique aussi, ouais, voilà. Qui se répondent, mais bancal en même temps.
Voilà.
Il y avait aussi, alors nous on l'a pas vu, mais une sorte d'encart promotionnel que vous avez fait un peu à la Chris Ware.
Ah oui, vous l'avez pas vu?
Non, bah non. Et alors, est-ce que tu peux nous en parler, parce que c'était extrêmement drôle quand même?
Ouais, bah ça c'était... En fait, des fois je regrette presque d'avoir fait ce truc, parce qu'il se trouve que dans les chroniques, c'est revenu tout le temps. Enfin, beaucoup de gens ont adoré ce truc, mais... Bon, nous, on voyait ça comme une blague, et beaucoup de gens l'ont pris un peu au sérieux, du genre presque... Enfin... Ouais, genre, pour qu'ils se prennent à donner des directives, à se dire, nous, on fait pas du matrock, on fait pas de l'indie, machin...
C'est extrêmement drôle, quoi.
Mais voilà, nous, on l'a pris pour quelque chose de... Ouais, bah, voilà, tu parlais de Chris Ware, mais c'est clair que c'est en voyant les BD de Chris Ware et sa manière de monter les choses et de les formuler avec cette espèce d'ironie un peu acide. On a envie de rigoler avec ça et de pas juste proposer quelque chose de formel, parce qu'on n'arrive pas à parler de notre musique, donc on a eu envie de prendre cet outil-là pour faire une blague, mais bien faite. Donc voilà, on est...
C'est très bien fait.
Donc voilà.
Une question qui n'a rien à voir, mais tu peux nous parler de Shakespeare ?
De comment ?
De Shakespeare ?
Non, je ne peux pas vous en parler. Bah non, c'est très dur. Ouais, t'as vu l'interview dans laquelle... Et oui. Bah écoute, ouais, c'était... comme je disais, oui, c'est...
Il se trouve que c'est la... raconter, parce que tout le monde n'a pas lu cette interview.
Ouais, voilà. Il se trouve que c'est sur la chanson Elements, où... Je compose les paroles quasiment au dernier moment avant d'enregistrer. Et avant ça, c'est soit des espèces de pseudo-yaourt ou alors des bribes de phrases que j'ai dans ma tête ou des trucs que j'ai notés, mais j'ai jamais vraiment les paroles. J'arrive pas à composer les paroles, enfin à écrire les paroles direct en même temps que la musique. Du coup, bah voilà, il se trouve que là j'avais ce bouquin qui traînait avec moi. C'était un bouquin de Shakespeare, donc La Nuit des Rois. Et j'ai vraiment... moi, ce bouquin m'a vraiment touché, Mais là, pour le coup, j'ai ouvert une page au hasard, presque un peu... ça peut paraître présomptueux, mais c'est presque comme Burroughs pourrait le faire à l'époque du cut-up, quoi. C'était bon, voilà, on va tomber là-dessus et je vais essayer de mélanger les phrases. Mais en fait, j'ai vraiment pris un paragraphe entier et voilà, j'ai chanté en lisant ce texte. Et voilà, et après, voilà, ça sonnait parfaitement. Il y avait quelque chose de très musical en fait dans la langue. Il y avait quelque chose qui coulait, quoi. Donc au bout d'un moment, je me dis merde, comment, enfin, je vais devoir réécrire et je ne retrouverai pas la métrique, le truc qui coule. Et donc voilà, en fait, j'ai décidé de rester un peu centré sur ce texte. Je l'ai pas gardé tel quel, j'ai un peu changé, mais vraiment j'ai gardé vraiment la métrique, j'ai un peu écrit par-dessus, le texte de Shakespeare.
Et c'est moi, je trouve joli que comme phrase.
Ouais, ouais, voilà, mais ça peut paraître bizarre, mais pour moi ça me pose aucun problème parce que ça pourrait presque ressembler à du sampling, en fait, quoi. C'est un peu comme le sample pour le hip-hop, on va reprendre des bouts de trucs, et moi je suis pas complexé par ça, je suis pas complexé par l'idée qu'il faut que tout vienne de toi, au contraire, moi je suis plutôt, ouais, voilà, pour moi la musique, elle ne sert pas à vraiment exprimer mon moi intérieur, c'est vraiment... On se sert de ce qui nous entoure, donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être dans la pub, ça peut être dans de la littérature classique. Donc voilà, ouais, je suis pas complexé par rapport à ça, parce que voilà, musicalement on le fait, on pioche à gauche, à droite, même si on va pas jusqu'à pomper des plans entiers de groupes qu'on aime, mais bon, voilà, là on a poussé le bout, poussé le truc jusqu'au moment où voilà, on s'est retrouvé avec ce texte de Shakespeare sur nous, quoi. Et voilà.
Voilà. Alors, je vais pas t'embêter plus longtemps. Juste pour finir, vous allez jouer aux Zombélis la semaine prochaine.
Ouais.
Quels sont les projets, d'autres dates, d'autres choses prévues et des choses que tu voudrais souligner en particulier?
Alors, je sais pas ce que je veux souligner. Tout est à souligner. Mais ouais, là, c'est jusqu'à juin qu'on va dire qu'il y a pas mal de dates. Des tournées à droite à gauche. Donc, il y a cette date aux Zombélis. C'est bien parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas joué à Rennes et on semblait que c'était le moment de donner quelque chose à notre public rennais.
qui attend,
ouais, voilà, ça faisait un petit moment. Donc voilà, on est content de faire cette date, surtout à l'Antipode, qu'on n'a jamais joué à l'Antipode. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? Je saurais pas souligner un truc en particulier. Il y a aussi le ciné-concert qu'on fait, donc sur les vieux cartoons là, des années 30.
Et vous allez refaire à Rennes ?
On le refait à Rennes, on le refait en septembre.
Ouais, d'accord. Nancy, c'est sur... bientôt ?
Il y a Nancy bientôt, il y a d'autres dates, mais je saurais plus te dire où. Mais voilà, un peu partout. Enfin, on va commencer à le jouer un peu en France et puis
Alors justement, ouais. Je t'interromps là-dessus, mais il y a un truc qui m'a semblé curieux, c'est que vous avez l'air d'être des gros gros mordus de films.
Ouais.
Et pourquoi le choix de Tom et Jerry alors?
Bah justement parce qu'on est des mordus de films et que on a préféré se diriger vers quelque chose qu'on connaissait pas trop, qui pour nous était assez léger, parce que les premières idées qu'on a à la base, c'est l'Antipode qui nous a proposé ciné-concert et ils nous ont laissé le choix du film et ça a été un calvaire parce que étant des mordus de films, au début t'es tenté de prendre tes films préférés et puis voilà, tu les regardes et tu fais mais qu'est-ce que je vais apporter, quoi, parce que au niveau du rythme, au niveau de au niveau le son, comment on peut juste j'en sais rien, mais il y en aurait une centaine à dire, quoi. Et puis, enfin, je sais plus, mais on a tout vraiment, même des daubes, on a même il était question des Gremlins à un moment, enfin vraiment des Gremlins à Kubrick, on a tout exploré et rien n'était envisageable, donc au bout d'un moment on s'est dit est-ce qu'on ferait pas mieux de faire des formes courtes, et donc voilà, on est vite arrivé à cette idée de vieux cartoons. On est allé regarder ce qui se faisait, on est tombé sur donc les les studios Van Buren qui font ces deux personnages, Tom et Jerry, qui sont donc pas le chat et la souris qu'on connaît habituellement. Et voilà, ouais, il y avait quelque chose qui collait tout de suite au niveau du rythme, au niveau de l'ambiance. Ouais, voilà, ça nous a paru suffisamment riche et léger. Et en même temps, c'est pas quelque chose qu'on respecte voilà, comme un Kubrick ou un Herzog qui ferait qu'on serait sous le poids de ces réalisateurs, quoi. Voilà, en même temps, il y a des ciné-concerts sur l'Aurore, par exemple. Bah, Mélano a très bien fait ça. Donc voilà, mais nous, on ne se sentait pas capable de faire ça, quoi. En fait, on a rencontré Red un soir dans un bar et tout. Et c'était au moment où on cherchait un film. On savait qu'il avait fait le ciné-concert sur le match de foot, Séville 82. Il nous disait, mais les gars, mais arrêtez, ne prenez surtout pas un chef-d'œuvre, surtout pas un muet noir et blanc, prenez un épisode de Derrick et ça fera l'affaire. Vous aurez bien plus de choses à dire sur quelque chose de vide que sur un gros film. Donc voilà, on l'a pas trop écouté non plus, parce que les dessins animés de Tom et Jerry sont très riches, mais voilà quoi, c'est des choses qui sont moins lourdes.
Musicalement, parce que c'est quand même différent.
Ouais, c'est différent. On se sert pas mal de. Il y a quand même des matériaux qui viennent de ce qu'on fait à la fois sur Savage Blues, à la fois en live. On va reprendre des bribes de choses qui sont dans nos compos, que ce soit un sample, un rythme, une mélodie. Et on essaie de construire autre chose avec. Mais c'est très étrange. Moi, je pensais que ce serait plus compliqué que ça. Il se trouve que ouais, le film, ça donne une espèce de partition que tu dois suivre, quoi. Les choses sont allées assez vite, quoi. Donc voilà. Là, on va, par rapport à ce qu'on a joué la dernière fois sur Rennes, on va allonger un peu le ciné-concert. Cette fois, il va durer une heure à peu près. Il y aura plus de courts-métrages de Tom et Jerry. Il y aura un peu plus. Donc voilà.
Voilà. Plus de choses avec Patriotique dans le.
Alors Patriotique, ouais, on a repris récemment, là, on a fait une mini tournée plutôt dans le sud. Ça faisait et puis à Rennes, voilà, vous étiez là. Et ouais, bah, ça faisait du bien de reprendre ce projet qui pour nous est assez léger. Et moi, j'aime bien être au service d'Eric. C'est très jouissif d'être au service de son écriture. Donc voilà, ça faisait du bien de repartir là-dessus. Lui, il est hyper occupé. Mais il me semble qu'on va tourner fin mai. Notamment, là pour l'instant, je ne sais plus, il y a une date à Lorient et à Bordeaux, notamment avec un type qu'on adore qui s'appelle Chris Cohen.
Oui, dont tu nous as parlé aussi.
Voilà, ouais. Et donc on est ravis, mais on est aux anges de jouer avec ce type parce qu'on est vraiment fanatique de son dernier album. Donc voilà, deux dates avec ce gars, donc c'est un bonheur.
Super. Bah écoute, merci beaucoup.
Merci à vous.